Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» Et aujourd'hui, dans l'émission, nous allons traiter de l'Observatoire de la laïcité, une instance voulue par Jacques Chirac en son temps, créée en 2007, mais en réalité installée en 2013 par François Hollande. Et cette instance qui conseillait, qui donnait des avis, qui participait, je dirais, de la discussion du débat démocratique dans notre pays, a été supprimé et remplacé par un comité interministériel qui sera rattaché au Premier ministre. Pour en parler avec nous, notre premier invité est Thomas Porte. Bonjour.
Bonjour.
Thomas, vous êtes porte-parole national de Génération S, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et également directeur de la Confédération nationale du logement. Ça, c'est pour votre activité professionnelle. Ma première question, c'est tout simplement de vous faire réagir à votre réaction, qui a été assez vive, on va dire, sur les réseaux sociaux, puisque vous exprimez de la manière suivante en disant « Les idéologues d'extrême droite du gouvernement, avec à leur tête Marlène Schiappa, auront donc réussi à détruire l'Observatoire de la laïcité pour en faire une officine au service du Premier ministre ». Il n'y a pas eu énormément de réactions, mais la vôtre, elle est relativement forte.
Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions au moment où Marlène Schiappa a pris position contre l'Observatoire de la laïcité il y a quelques semaines. Donc, on s'attendait à sa suppression, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver, mais elle avait déjà organisé tout ça avec les États généraux de la laïcité. Et je crois que si les réactions elles sont aussi vives, c'est que d'abord, il faut saluer le travail qui a été fait par l'Observatoire de la laïcité sous la houlette de Jean-Louis Bianco et de Nicolas Cadenne, qui ont réalisé un formidable travail, qui d'ailleurs est reconnu sur le terrain par l'ensemble des organisations, des associations qui ont été en contact avec eux, quel que soit le bord politique d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on voit que dans ce qui se passe, on ne peut pas l'extraire du débat politique et du climat dans lequel on évolue, c'est qu'il y a eu une guerre ouverte contre l'Observatoire de la laïcité, parce que Marlène Schiappa a dit que, en gros, l'Observatoire ne se concentrait pas assez sur l'islam radical et prenait trop la défense des communautés musulmanes et qu'il y avait pas, il y avait des prises de position qui posaient problème. Tout ça, quand même, sous la pression du printemps républicain qui a fait entrer à l'Élysée auprès de Marlène Schiappa. Donc, on voit bien que cette suppression qui va produire le transfert d'un outil qui était utile à l'intérêt général, dont nous avions besoin pour parler de la laïcité, pour former des gens, pour expliquer ce concept et le mettre en place et continuer à le faire vivre au cœur de la République, c'est transformé en une espèce d'organisme interministériel directement dépendant du Premier ministre, alors que jusque-là, l'Observatoire de la laïcité était quelque part indépendant, ce qui était aussi un gage de son travail sur le terrain.
Alors, si on se replace sur le temps un peu long, c'est pas la première fois que l'Observatoire de la laïcité était au cœur du débat politique et parfois dans des polémiques. On se rappelle notamment des échanges assez vifs il y a quelques années entre Jean-Louis Bianco, qui est le président connu, reconnu, et le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, je crois que c'était en 2015, où il y avait eu des échanges assez vifs justement sur le rôle de l'Observatoire, son positionnement. Et donc, finalement, c'est pas nouveau ces débats qu'il y a au sein du gouvernement actuel. Ils ont eu lieu aussi au sein du précédent gouvernement.
Que les débats existent sur le positionnement ou les prises de position de Jean-Louis Bianco ou de Nicolas Cadenne sur des sujets, c'est tout à fait légitime. Et le débat politique et le débat fait partie de la vie démocratique de ce pays, et c'est tant mieux. Mais quand vous regardez d'où viennent les critiques, elles viennent pas des gens sur le terrain. L'Observatoire, il a apporté quasiment une aide à 350 000 fonctionnaires, élus, associations, et personne n'a trouvé à dire dans ces gens de terrain qui ont été formés, accompagnés, aidés par l'Observatoire de la laïcité, qu'il y avait quelque chose à redire. Les polémiques, elles ont été instrumentalisées et montées en épingle par Manuel Valls, dont on connaît aujourd'hui le positionnement politique et la guerre ouverte qui mène contre une certaine catégorie de la population. Elles ont été orchestrées par notamment Raphaël Enthoven, qui a quand même quelques jours dit que s'il avait choisi entre Le Pen et Mélenchon, il voterait Le Pen. Donc on a quand même une dérive très droitière, pour ne pas dire plus, qui orchestre des polémiques et qui remet en cause un outil qui, je le rappelle, était indépendant et menait un travail qui était unanimement reconnu. On n'a pas eu aujourd'hui de remise en cause du travail de l'Observatoire de la laïcité par des associations, par des gens de terrain, par des fonctionnaires d'État. Non, ce sont par des responsables politiques, des éditorialistes, qui aujourd'hui mènent une guerre et qu'on inscrit dans ce qui se passe, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le contexte politique. On ne peut pas extraire du débat la suppression de l'Observatoire de la laïcité et la loi sur le séparatisme qui a été votée à l'Assemblée nationale. Je crois que ça opère du même mouvement qui est extrêmement dangereux, qui vise à stigmatiser une religion aujourd'hui dans le pays. Et c'est ça le danger qui est pointé. D'ailleurs, Jean-Louis Blanco dit qu'aujourd'hui, quand on supprime l'Observatoire, on supprime un garde-fou. C'était quand même l'Observatoire de la laïcité était quand même le gardien, le temple de ce qu'est la laïcité en France, de ce qu'elle doit incarner, de ce qu'elle porte, de ce qu'elle est au service de la République. Et aujourd'hui, on a un outil qui est dévoyé, qui est passé sous l'autorité du Premier ministre. On ne sait pas trop à quoi il va servir, on ne sait pas comment il va être organisé. Donc ça pose des questions et ça interroge. Et je crois que si les remarques ont été si acerbes, c'est que le travail qui a été fait par l'Observatoire avec peu de salariés, peu de moyens, était unanimement reconnu par les gens du terrain.
Alors, on a eu, nous, l'occasion de recevoir plusieurs fois Nicolas Cadenne. C'est vrai que l'Observatoire avait une approche très juridique. Hein. Il apportait effectivement des soutiens, vous l'avez dit, aux associations, aux institutions. Également, il rendait des avis, parfois qui allaient dans le sens du gouvernement, mais parfois non. Est-ce que, en fait, ce qu'on reproche à l'Observatoire, c'est pas finalement d'avoir juste dit le droit ou appliqué le droit au moment où certains disent... Et vous avez parlé de la loi séparatiste, ça suffit pas aujourd'hui de défendre la laïcité, il faut être plus engagé, plus militant face à un islam politique, face à des dérives sectaires, des radicalisations. Est-ce que finalement on n'a pas demandé à l'Observatoire de la laïcité d'aller au-delà de ce qu'étaient ses missions?
C'est peut-être un problème aussi, c'est la question que vous posez. C'est-à-dire qu'on reproche à un observatoire de ne pas avoir pris quelque part des positions politiques. Alors que c'est pas son rôle. Lui, son rôle, c'était d'amener des compétences et des formations et d'appliquer la loi. Enfin, d'expliquer l'application de la loi, de dire ce qu'était le concept de laïcité, comment elle était, elle s'inscrivait dans le droit français. Donc c'est ça aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, avec la transformation de l'Observatoire de la laïcité en comité interministériel, on va utiliser, en tout cas le gouvernement va tenter d'utiliser cet outil-là pour véhiculer une autre forme de laïcité, parce qu'il y a aussi un débat sur ce qu'est la laïcité dans ce pays. Ça a été ouvert par la loi sur le séparatisme, ça a été ouvert par différents idéologues de droite et d'extrême droite. C'est aujourd'hui un débat de fond de la société. Et moi, je considère que la loi de 1905, elle est tout à fait valable, elle est tout à fait importante. Et d'ailleurs, à l'époque, Aristide Briand disait qu'il fallait avoir du sang-froid et qu'il fallait savoir résister aux surenchères et ne jamais craindre d'être taxé de modéré. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a quand même un débat qui s'enflamme sur des micro-polémiques et sur un agenda fixé par l'extrême droite, et on a le gouvernement et Mme Schiappa qui court après, elle court tellement après qu'elle finit devant presque. Donc ça doit interroger, et on avait besoin d'un outil. D'ailleurs, je me félicite que Julien Bayou ait proposé, s'il est élu président de région, de recréer un observatoire de la laïcité à l'échelle de l'Île-de-France pour donner des outils, pour former les enseignants, pour former les éducateurs de quartier, pour aider les associations dans ce travail important. Nous avons besoin d'une structure indépendante qui a des moyens, qui n'est pas partisane, qui fait venir des intervenants divers et variés, qui est garant de cette pluralité et de cette reconnaissance de terrain. Et je le redis encore, parce que c'est important, on a détruit un outil qui était unanimement reconnu. Donc aujourd'hui, on a de quoi avoir des interrogations. Quand vous détruisez un outil, c'est qu'en général, il ne marche pas, ou derrière, il y a des critiques. Mais aujourd'hui, à part les critiques de certains responsables politiques, je ne vois pas bien d'où elles viennent.
Alors, il y a eu des critiques de responsables politiques, mais il y a eu aussi des critiques d'universitaires, d'intellectuels qui reprochaient à l'Observatoire de fermer les yeux ou d'être complaisant vis-à-vis de certaines associations, vis-à-vis de certaines mouvances. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y avait dans le champ politique des gens qui considéraient que, ma foi, s'ils n'étaient pas utiles dans la lutte contre la radicalisation, contre le développement d'un islam politique, contre la montée du communautarisme, qui peut être une réalité dans certains territoires, et bien ma foi, c'était un peu ça. Le sujet, c'était de dire, est-ce que l'Observatoire a joué son rôle? Et s'il n'a pas joué son rôle, et bien finalement, le gouvernement prend la décision de le supprimer.
Oui, mais je pense que l'Observatoire a joué son rôle, et là, il se retrouve au cœur d'une instrumentalisation politique. Évidemment, on peut parler de radicalité, de communautarisme, mais aujourd'hui, on a un dévoiement de la notion de laïcité qui est utilisée à des fins politiques au cœur d'une proposition de loi qui a été adoptée, et je le redis, pour stigmatiser une partie du pays, du peuple français, une religion en particulier. On ne va pas rentrer juste dans le débat de la loi, mais quand on a parlé des signes religieux, ben on sait très bien sur quoi on s'est concentré. Donc il y a toute une espèce de corpus idéologique, de signaux qui donnent à voir qu'on cible une seule catégorie de la population. Et justement, la laïcité, voilà, c'est un objet, c'est la séparation stricte de l'Église et de l'État. C'est ça aujourd'hui la réalité, et on n'a pas besoin de revenir là-dessus pour lutter contre le communautarisme ou pour lutter contre le fondamentalisme islamique ou toutes les dérives religieuses, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je pense que c'est pas la solution de redéfinir ce que c'est la laïcité et de revoir son concept. La loi qui a été votée en 1905, elle est aujourd'hui applicable et appliquée, et elle suffit largement dans le cadre républicain qui est le nôtre. C'est aujourd'hui un basculement idéologique extrêmement préoccupant, où on a des responsables politiques qui autrefois se qualifiaient de gauche, tiennent des propos qui glissent dangereusement vers la droite. Donc c'est ça qui est très dangereux. Et c'est au final dommage aussi quand même pour les gens qui ont travaillé dans cet observatoire, qui ont mené un travail de terrain tout à fait respectable, qui ont rendu des rapports, effectivement qui ont donné des avis sur lesquels le gouvernement n'était pas d'accord. Mais vous l'avez rappelé, il y avait déjà ces débats sous le quinquennat de François Hollande avec Emmanuel Valls. Mais jamais on n'avait abouti à la suppression de l'observatoire, parce qu'il y avait quand même certain respect de cet observatoire. Il y avait aussi le sens de la mesure et du travail reconnu, et de savoir qu'il était indépendant et qu'il n'était pas là pour servir la politique du gouvernement. C'est pas ça le rôle de l'observatoire. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de transformer. C'est-à-dire on en fait un outil au service de la politique du gouvernement et des orientations du gouvernement. Et c'est, je le redis, normalement l'observatoire devrait avoir une indépendance qui garantit un travail de terrain de qualité.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de procès faits à l'Observatoire, mais on a eu aussi l'occasion d'interroger Nicolas Cadenne, justement, au moment de la préparation de la loi sur le séparatisme. Nicolas Cadenne, sur un certain nombre de points, partageait les propositions de la loi. Donc, il était aussi parfois en adéquation, peut-être pas avec l'ensemble de la loi, mais en tout cas, il semblait partager l'idée que il fallait donner des outils supplémentaires, notamment aux élus locaux ou aux préfets, pour en particulier mieux contrôler, mieux encadrer les lieux de culte, et en particulier les lieux de culte musulmans. Donc, il y avait aussi des moments où l'Observatoire travaillait, main dans la main avec le gouvernement.
Non, mais bien sûr, j'ai pas de problème avec ça. L'observatoire, c'est pas parce qu'il est indépendant qu'il doit pas, mener un travail des fois de commun avec le gouvernement sur des sujets, et sur le fait qu'il faille donner des moyens aux élus locaux, qu'il faille assurer la formation de certaines personnes. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais le gouvernement avait décidé bien avant la loi séparatisme déjà de dissoudre l'observatoire, puisque je rappelle qu'il y avait un amendement qui a été proposé dans les cadres du débat sur la loi sur le séparatisme qui prévoyait d'acter le fait qu'il y ait l'observatoire de la laïcité. Marlène Schiappa s'est opposée à cet amendement. Donc en vérité, c'était un véritable objectif du gouvernement. Et la manière dont ça a été annoncé, en plus, ça a été annoncé sur un coin de table au cours d'une émission en radio. Marlène Schiappa a dit l'observatoire de la laïcité s'est supprimé, et ça a fuité par voie de presse. Donc c'est aussi un irrespect pour les gens qui ont travaillé depuis des années là-dedans, qui étaient peut-être pas d'accord avec le gouvernement, mais qui ont mené un travail tout à fait respectable. Donc il y a à la fois le fond et la forme dans cette affaire qui est condamnable.
Oui, effectivement, on a l'impression que le gouvernement n'a pas pris de gants. En particulier avec Jean-Louis Bianco, qui s'en est plaint d'ailleurs, qui s'en est ému dans la presse, et avec le rapporteur Nicolas Cadenne, qui visiblement n'était pas très apprécié par un certain nombre de membres du gouvernement, et donc dans la manière, on a l'impression que il y a eu un traitement un peu particulier.
Oui, je crois qu'on a tous été surpris par la violence de l'annonce, non pas que qu'on pensait que le gouvernement allait maintenir l'observatoire, puisqu'on avait quand même des signaux inquiétants et des fuites, comme on a l'habitude d'orchestrer maintenant dans la presse par des voix hautes en disant « attention, ça va pas assez loin, on n'est pas d'accord avec eux ». Mais vous l'avez dit, Jean-Louis Bianco l'a extrêmement bien illustré sur Mediapart, c'est quand même d'une violence inouïe de supprimer du jour au lendemain un observatoire, sans quasiment informer les principaux concernés, qu'ils la prennent comme ça par la bande. Bon, c'est un peu aussi une marque de fabrique de cette politique-là qui est au pouvoir depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, c'est-à-dire prendre les gens un peu par-ci, par-là, et quand on en a plus besoin, on s'en sépare. Vous savez, ce qu'ils appliquent comme loi dans le droit du travail, ben, vous le retrouvez malheureusement quand il faut se séparer des gens qui travaillent pour vous au gouvernement. Donc c'est un peu le même process. Donc c'est, moi je le dis, c'est dommage et désolant, parce que cet outil était véritablement utile, nous en avions besoin, des gens l'utilisaient fréquemment, il était reconnu de tous. Mais voilà, je pense que, en tout cas, Nicolas Cadenne et Jean-Louis Benko pourront continuer à apporter leur expérience, leur savoir-faire et toute la richesse intellectuelle sur ce sujet-là, qui est un sujet majeur aujourd'hui.
Merci Thomas Porte pour votre témoignage. Je signale aussi à nos auditeurs qui ont déjà eu l'occasion d'entendre Nicolas Cadenne, parce qu'on l'a invité plusieurs fois dans nos émissions pour débattre de la laïcité, du projet de loi séparatisme, qu'il n'a pas souhaité s'exprimer. On peut le comprendre, hein. Je pense qu'il est aussi touché par ce qui se passe, et en tout cas on lui adresse nos amitiés. Merci Thomas, je rappelle que vous êtes porte-parole national de Génération, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et directeur de la Confédération nationale du logement, et on vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation et à nos questions.
Et si on en parlait, du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» consacrée au remplacement de l'Observatoire de la laïcité par un comité interministériel. Nous allons essayer de comprendre et de décrypter décision du gouvernement. Dans la première partie de l'émission, on avait plutôt quelqu'un qui a critiqué la décision, c'était Thomas Porte, le porte-parole de Génération. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Colosimo. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs, même si vous avez déjà eu l'occasion de venir plusieurs fois dans l'émission, que vous êtes historien, éditeur, directeur général des éditions du Cerf et auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage très remarqué sur la laïcité, la religion française, 1000 ans de laïcité, et je crois que plus récemment, vous avez écrit un autre ouvrage qui s'intitule « Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie ?» Donc on a souhaité effectivement vous entendre. Alors peut-être pour pimenter un petit peu le début de l'émission, j'ai retrouvé une citation qui concernait l'Observatoire de la laïcité, que vous aviez qualifié d'officine d'agréable fréquentation pour les salafistes. Alors est-ce que ça veut dire que vous êtes plutôt satisfait de la suppression de l'Observatoire ?
Je ne vais pas être satisfait, je prends acte d'une décision. L'Observatoire de la laïcité avait été créé dans un contexte, celui en fait de la loi sur le voile, voulue par Jacques Chirac, comme en quelque sorte une mesure aussi d'atténuation. Il avait mis des années, cet observatoire, à se mettre en action, mais enfin, son rôle était un rôle en fait de chambre d'écoute, de chambre, en fait, de réception, en quelque sorte, des sentiments divers, forcément, que pouvaient susciter les mesures prises par le gouvernement. Et donc, cet observatoire, de manière assez claire, se voulait un lieu plutôt d'analyse et de débat que véritablement, je dirais, un bras armé de l'administration. Et c'était tout à fait normal, puisqu'il avait d'ailleurs un statut autonome, bien que rattaché au Premier ministre. Donc on était dans une volonté d'atténuation. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une volonté d'accentuation. La loi sur le séparatisme, donc on est 13-14 années après 2007, le contexte du monde a changé, le contexte de la France a changé, le président de la République a décidé effectivement, je dirais, d'engager une lutte contre ce qu'il nomme le séparatisme, les atteintes profondes aux principes de la République et au premier principe d'entre eux qui est la laïcité dans ce cas. Et effectivement, l'État a besoin aujourd'hui d'un instrument qui ne va pas atténuer mais qui va accentuer la loi. Et c'est pour cela donc qu'on supprime cet observatoire qui était effectivement très controversé par, je dirais, une approche très multiculturaliste du fait religieux en France et qu'on le remplace par, en fait, un véritable organisme interministériel qui va être rattaché naturellement au ministère de l'Intérieur, puisque le ministre de l'Intérieur est en charge des cultes et qui aura pour but de bien vérifier que toutes les administrations fonctionnent de la même façon par rapport à la nouvelle loi. Donc, on est là véritablement dans un souci d'efficacité, alors qu'avec l'Observatoire, on était dans un souci de concertation. L'Observatoire a poussé effectivement très loin cette volonté de concertation et a noué langue et relations avec des groupes qui aujourd'hui tomberaient sous le coup de la loi. C'est ça qu'il faut comprendre.
Certes, mais comme vous l'avez rappelé, à l'origine de la création, l'Observatoire avait un rôle essentiellement de conseil, d'avis et aussi d'accompagnement des acteurs locaux, des professionnels qui pouvaient être confrontés aux faits religieux. Et finalement, peut-être comme vous l'avez rappelé, avec un changement de contexte, on a voulu lui faire jouer un rôle qui n'était pas, je dirais, inscrit dans son ADN. Et peut-être qu'il a aussi porté un peu le chapeau pour, je dirais, des enjeux politiques qui finalement dépassent le rôle de l'Observatoire, parce que même si parfois il a été amené à fréquenter des groupes qui aujourd'hui ont été dissous, globalement on n'a pas non plus énormément de dérives
reprocher.
À lui reprocher en tant que tel, quoi, en tant qu'institution.
Oui, mais c'est pour ça que vous me demandez si j'étais satisfait. Moi, je n'ai jamais été un adversaire ou un ennemi de l'Observatoire. J'ai simplement constaté sa parfaite inefficience et, malgré tout, assez régulièrement, une certaine confusion, effectivement, dans ses missions. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Très précisément, c'est que l'Observatoire, comme organisme de débat, de rencontre, de consultation, de concertation, cède la place, encore une fois, en fait, à un véritable instrument d'État. Ce qui veut dire que la laïcité cesse, comme elle l'était devenue, à mon sens, à tort, un objet de réflexion sociétale, pour redevenir une politique de l'État et inscrite dans le droit. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que les missions changent complètement. Au fond, l'Observatoire était en quelque sorte voué, mais aussi condamné, si je puis dire, à se satisfaire de rencontrer les acteurs consonants ou dissonants de la laïcité pour essayer d'établir une espèce de travail de conviction. Aujourd'hui, il y a une loi qui a besoin d'abord d'être appliquée au sein de l'État par toutes les administrations. D'ailleurs, je vous rappelle que ce nouveau comité interministériel aura pour tâche d'instaurer quasiment un cours de laïcité, de vérifier que les principes de laïcité sont eux-mêmes appliqués et exercés au sein même de l'État. Parce que la laïcité, c'est une prérogative de l'État. La laïcité, ce n'est pas une idéologie. La laïcité, ce n'est pas une mystique. La laïcité, ce n'est même pas une cause. C'est la manière dont l'État régule la société et au sein de la société, les communautés de conviction, de manière à ce que les communautés de conviction, qui sont très souvent exclusives parce qu'elles pensent détenir la vérité, qui sont très souvent aussi dominatrices parce que elles impriment en quelque sorte leur commandement sur la vie de leurs fidèles, eh bien elles tendent en fait à créer un climat au moins latent de guerre civile qui nous ramène à la mémoire très française des guerres de religion, et l'État intervient de manière neutre pour être sûr que ces communautés de conviction, en fait, ne portent pas atteinte à l'ordre public et à la paix civile. Le problème, ce qu'on a pu constater ces derniers temps, c'est que l'État lui-même n'était plus du tout irréprochable dans ces questions. Vous voyez, on a eu la fameuse affaire de la grande mosquée de Strasbourg avec un financement promis par la mairie écologiste. On a reproché cela à la mairie écologiste, mais on s'est rendu compte
d'abord
que...
par le maire socialiste, puis et avec à l'époque le soutien de l'État. Donc bon.
Oui, absolument. Là aussi, précisément, voilà. Et la préfète qui a été commise en quelque sorte par sa fonction à s'expliquer avec la mairie, on a découvert qu'elle-même avait soutenu l'association. Voilà. Turque et musulmane, où l'avait reçu, où lui avait confié le Midi Gauche, où lui avait confié des missions. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine forme de désordre qui régnait aussi au sein de l'État, n'est-ce pas? Et cette commission interministérielle, elle a pour première fonction d'harmoniser les pratiques de l'État selon le principe de la laïcité. Parce qu'il est évident aussi qu'au niveau local, beaucoup d'agents de l'État ou beaucoup de représentants du peuple sont en quelque sorte souvent perdus pour identifier les questions, les problèmes, les acteurs. Donc oui, on a changé de monde. En tout cas, c'est la volonté politique qui est affichée à l'Élysée, un changement de politique très fort, puisque on pouvait penser que le président actuel de la République, Emmanuel Macron, avait quand même une certaine inclination spiritualiste. Il aimait s'entretenir, avait des corps religieux, peut-être plus qu'aucun de ses prédécesseurs. D'un autre côté, il avait une approche assez multiculturaliste. Depuis le fameux discours des Mureaux, n'est-ce pas?
En même temps, il est chanoine du Latran aussi, donc il est un peu...
Voilà, chanoine du Latran, voilà, mais bon, ils sont tous, hein, c'est pas que lui.
Non, ils le sont tous.
On voit que depuis le discours des Mureaux, il revient à une sorte de logiciel très républicain, qui est au fond celui de la France. Alors il le fait peut-être par sens de l'opportunité politique, par conviction, de manière alarmée face aux réalités tout de même du terrain, n'est-ce pas? Les fameux territoires désertés par la République, mais aussi les vagues des assassinats de représentants de l'État, etc., etc. Et donc, le voilà qui réagit fortement à ça. Et donc, l'Observatoire, lieu de dialogue, on lui substitue effectivement, encore une fois, je dirais, une force d'intervention. Parce que la doctrine est réglée. L'Observatoire était censé diffuser une doctrine plus ou moins molle, en quelque sorte, qui était censé apporter l'adhésion des acteurs. Aujourd'hui, l'État a décidé de réprimer certains acteurs, à tort ou à raison, mais ça explique le changement.
En même temps, on avait aussi effectivement un observatoire de la laïcité qui disait s'inscrire dans la philosophie libérale de la loi de 1905 et donc faire appliquer les principes émanant de la loi, mais je dirais rien que les principes et pas plus que les principes, parce que souvent, on a interpellé l'observatoire, par exemple, sur les questions liées au port du voile ou à telle pratique religieuse, et là, bien, il disait, ça n'est pas la laïcité. Nous ne sommes pas chargés de faire une police des mœurs religieuses ou des bonnes mœurs ou des mauvaises mœurs religieuses.
Bien sûr. Mais d'abord, effectivement, la police des cultes avait en quelque sorte disparu en France après la loi de 1905, en raison de la loi de séparation. L'État actuel restaure cette police des cultes, c'est clair, de la même manière que l'on a vu que le président de la conférence des évêques de France, le patron des catholiques, le président de la Fédération protestante de France, le patron des protestants si l'on veut, le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, patron des orthodoxes, co-signait en fait une tribune solennelle considérant qu'effectivement l'actuelle loi dite sur le renforcement des principes de la République, ou dite aussi loi sur le séparatisme, contrevenait à l'interprétation libérale de 1905, puisque en fait le principe de la séparation s'en trouvait atténué, puisque une des dispositions de la loi, entre autres dispositions de la loi, c'est précisément que la liberté d'association n'est plus accordée comme un principe, mais qu'elle devient dérogatoire. Je m'explique en deux minutes. Aujourd'hui, les associations cultuelles, c'est-à-dire religieuses, qui reçoivent des subventions publiques, devront se faire homologuer tous les 5 ans aux préfectures.
Oui, absolument.
Ce qui veut dire que leur existence, désormais, est déterminée par un examen préalable de l'État, là où l'État, naguère, avant cette loi, se contentait de contrôler postérieurement que ces associations effectivement ne portaient pas atteinte à l'ordre public, menaces
et en plus
nationales et autres.
L'État demande maintenant à ce qu'elles prennent toute la forme d'associations cultuelles, alors qu'apparemment on tolérait les associations loi 1901 dans la gestion des cultes, et ça ne sera plus possible à l'avenir.
Absolument, puisque les dispositions de la loi portent sur ces associations 1905, qui sont les associations du culte, c'est les associations religieuses.
Et que beaucoup d'associations, dans les faits, n'avaient pas pris ce statut.
Absolument, pour des différentes raisons, de facilité administrative, d'avantages fiscaux, etc. Désormais, ça ne sera plus le cas. Et donc, on voit que là, on a une politique d'État qui tient à encadrer le fait religieux. Encore une fois, à tort ou à raison. Mais on comprend dès lors le remplacement de l'Observatoire par ce fameux comité interministériel. Vous comprenez? C'est pas très surprenant, c'est ça que je dis. Je dis pas plus, mais je dis ça. C'est pas très surprenant parce que on a véritablement un changement de politique.
Oui, alors ce qui a pu surprendre, on va dire, c'est que d'abord, il y a eu quand même pas mal de tergiversations, puisque tout le monde au sein du gouvernement n'était pas forcément d'accord. Je pense que le président de la République lui-même a eu une hésitation. Et puis finalement, la sanction est tombée parce que c'est les propos, c'est Jean-Louis Bianco qui considère que c'est tombé un peu comme un couperet et qu'il n'y a pas eu, on va dire, d'accompagnement diplomatique de cette décision.
Voilà. Alors évidemment, donc d'abord, il faut le dire, c'est une nouveauté parce qu'en France, généralement, on ne supprime jamais rien. Enfin, c'est pas une nouveauté absolue, mais normalement, quand quelque chose ne marche pas ou on n'est pas satisfait, on crée un organisme à côté parallèle qui fait la même chose. Bon, dans ce cas-là, effectivement, le fait que le président de l'Observatoire ait été Jean-Louis Bianco, personnalité historique de la Mitterrandie, a certainement retardé un tant soit peu le couperet, mais son mandat arrivait à échéance. Hein. Oui. Donc c'était aussi l'occasion, de mettre un terme.
De passer à autre chose sans trop de brutalité.
Voilà, sans trop de brutalité, puisque au moins il n'a pas été dénié, lui, personnellement, comme il l'aurait été si on avait d'un coup, interrompu son mandat. Vous voyez ? Le mandat était arrivé à terme. Voilà. Deuxièmement, il est sûr que l'État considère qu'il n'a pas à être à consulter finalement un organisme qui était un organisme paritaire dans lequel il y avait des fonctionnaires, des parlementaires de droite, de gauche, des experts, etc. Puisque finalement, si je puis dire, la religion de l'État est faite là-dessus, à travers cette fameuse loi, encore une fois, qui est contestée, n'est-ce pas? Et c'est peut-être une contestation plus sérieuse, au fond, que celle qui porte sur la suppression de l'Observatoire. Et puis, le troisième point, vous l'avez dit, c'est que c'est un sujet qui divisait la majorité elle-même, l'actuelle majorité, LRM. Et on retombait sur un peu tout le problème de la constitution désormais idéologique de tous les partis, puisque tous les partis sont en quelque sorte divisés, très souvent sur des questions sociétales d'ailleurs. Bon, en l'occurrence, nous en sommes là. Le véritable problème qui est derrière tout ça, c'est que, bien sûr qu'il s'agissait de réformer la loi et de faire en sorte que les représentants de l'État soient eux-mêmes laïcs, n'est-ce pas? Ce qui n'est plus trop le cas. Et on a d'autres problèmes dans les collectivités locales, les élus locaux, très souvent, soit par ignorance, soit par calcul électoraliste, soit par négligence, ont laissé grandir des phénomènes de séparatisme qu'ils ont ensuite évidemment profondément regretté, mais ne les ont pas vus venir. Donc on a un problème d'harmonisation, n'est-ce pas? C'est aussi des aventures de d'élus locaux qui se font condamnés par les tribunaux administratifs parce que en fait ils ne veulent pas de l'installation de tel culte ou de tel représentant de tel culte qui juge nocif pour l'environnement général, mais comme il n'y a pas de recours possible du point de vue de l'État, eh bien le tribunal administratif les déboute, n'est-ce pas? Donc il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à mettre cet ordre? Parce qu'on a supprimé l'Observatoire, rien n'est moins sûr, pour dire la vérité, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, l'un des problèmes de la loi, l'actuelle loi sur le séparatisme, on va l'appeler comme ça, c'est plus facile, c'est qu'elle crée un guichet de contrôle, encore une fois, qui contrevient à l'esprit de 1905, et en même temps, on est à peu près sûr qu'à ce guichet vont se présenter tous les gens qui ne sont pas problématiques du tout ou qui sont peu problématiques. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ceux-là n'auront aucune crainte de se présenter devant l'État. Et donc, pendant ce temps-là, les gens qui causent problème, eux, ne se montreront jamais à ce guichet. Donc ce guichet va créer un état de confusion, un état de harcèlement, un état de suspicion aussi général sur le fait religieux, en laissant au fond à des fonctionnaires locaux un pouvoir arbitraire énorme, au moins de tracasserie, parce qu'il ne faudra pas cesser de remplir des papiers, de dresser des comptes, de donner des attestations, de donner les fichiers de ses adhérents, etc., 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 etc. Encore une fois, ceux qui vont le faire, ce ne sont pas forcément ceux que la loi visait. Au contraire. Au contraire, je ne sais pas si je suis bien clair,
oui.
Mais là, il y a un hiatus. Deuxièmement, le fait d'en finir avec l'islamisme militant, lequel peut mener au djihadisme et autres phénomènes de violence, mais ça, c'était une cause d'unité nationale. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, les musulmans, à commencer par eux-mêmes, j'entends par là ceux qui pratiquent la foi islamique, ceux qui adhèrent au Coran, ceux qui vont à la mosquée, et qui sont, parmi nos compatriotes, des gens tout à fait intégrés pour la plupart, n'est-ce pas? Hein? Encore une fois. Bon, eh bien.
Alors, Jean-François, je suis désolé, je dois vous interrompre parce que je bois vos paroles, c'est très intéressant, mais on arrive un peu à la fin de l'émission.
Bon, en tout cas, juste je finis là-dessus.
Oui.
On a fait avec cette loi d'un sujet assez profond d'unité nationale, de convergence nationale, un sujet de division. Voilà. Et ça, c'est la faute à la technocratie, parce que la technocratie a du mal à s'occuper du fait religieux. Voilà. Ensuite, il est clair que la laïcité, elle existe pour effectivement, je dirais. Prendre acte de la séparation entre le politique et le religieux, c'est sûr. Mais une fois que le religieux a été pacifié et accepte de rentrer dans ce pacte.
Eh bien, ça sera le dernier mot de cette émission. Merci Jean-François Colosimo. Je rappelle que vous êtes historien, éditeur, directeur général des éditions du CERF, auteur de La religion française, 1000 ans de laïcité. C'est pourquoi on vous avait invité pour cette émission consacrée à l'Observatoire de laïcité et à tous les sujets touchent à cette question qui vous passionne et qui est aussi pour nous un sujet important. À très
Merci.
Bientôt. Vous êtes sur Radio
Merci
Orient.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.